Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouvons Francis Pisani qui nous livre ses premières impressions du tour du monde des villes connectées qu'il est en train de réaliser. Place maintenant à notre second sujet du jour.
L'Atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf. Simon de Creuse.
Et vous.
Ce samedi marque le troisième anniversaire de la guerre civile en Syrie. Les morts de ce conflit se comptent en dizaines de milliers. Sa violence, l'atrocité des crimes de guerre qui l'accompagnent sont tout simplement insoutenables. Une enquête récente d'Annick Cogent pour Le Monde raconte comment le viol est employé par les troupes du président Assad comme une arme de destruction massive. Près de 200 journalistes et net citoyens ont trouvé la mort en couvrant cette guerre depuis mars 2011. 21 journalistes sont actuellement portés disparus ou otages. Parmi eux, quatre confrères français auxquels on ne peut s'empêcher de penser. Nicolas Hénin, Pierre Torres, Didier François, Édouard Elias. Des morts, des disparus, des otages dont le sort rappelle à quel point il est difficile et en même temps essentiel de couvrir, de raconter cette guerre. Raconter le conflit, la guerre civile en Syrie de l'intérieur, c'est l'ambition d'un dispositif multimédia mis en ligne récemment par Arte. Son nom, Syrie, journaux intimes de la Révolution.
الناس استيقظت صباحا ولقيت مئات من الجثث ميتة بالنايم.
لا، je prépare parce que je suis obligé de partir. Je suis très très en retard. On a une réunion avec le Conseil national.
Allah.
Sont révolutionnaires. Hammer est à Damas, Majid est à Alep, Oussama circule constamment entre Paris, Istanbul et la Syrie. Dans l'indifférence quasi générale, ils font face à la folie meurtrière du régime Assad. Pourtant, ils résistent, coûte que coûte. Depuis l'hiver 2012, ils filment leur quotidien. Ils nous racontent leurs espoirs, leurs doutes, mais aussi leur détermination. Ce web-documentaire les accompagne, jour après jour, dans leur quête de démocratie.
Bonjour Caroline Donati.
Bonjour Ziad.
Tu es journaliste, nous venons d'entendre l'introduction, le teaser du dispositif multimédia, j'aime bien ce terme, mais on peut aussi dire web documentaire, qui a donc pour titre Syrie, journaux intimes de la Révolution, que tu as produit avec la réalisatrice Karine Lefebvre-Quenel. Bonjour Karine.
Bonjour Ziad.
Il s'agit en fait de journaux intimes, de journaux vidéo qui sont pour la plupart face caméra, mais pas tout le temps. Il y a aussi des scènes qui sont filmées dans la ville, durant le quotidien de trois personnages, trois jeunes garçons. On a entendu leur nom dans le teaser. Il s'appelle Oussama. Oussama, il vit entre Paris, la Syrie et Istanbul. Il y a Amer qui vit, lui, dans la région de Damas. Et il y a enfin Majed qui vit, lui, dans la région d'Alep. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet ?
Caroline. Comment est né ce projet ? Moi, je travaille sur la Syrie depuis pas mal de temps. Et quand la révolution syrienne a commencé, je me suis approchée des réseaux médiatiques parce que le grand problème de la Syrie, c'était comment informer, comment relayer l'information de l'intérieur. Et donc, j'ai fait la connaissance d'un réseau médiatique, de ce réseau dans lequel Oussama travaille. Je les ai suivis pendant un an dans leur petit studio improvisé, comment ils recevaient leur première vidéo de Syrie. Et à ce moment-là, on n'avait pas un afflux d'images comme aujourd'hui, se posait le problème de comment relayer ces premières vidéos, ces informations. Mais c'était plus que un travail de journaliste. Ils n'étaient pas journalistes d'ailleurs. C'était un travail de
témoignages,
de témoignages et de révolutionnaires, parce que ils aidaient leurs frères de l'intérieur. Il y avait une question d'organisation. Et c'est pour ça que dans le dispositif, comme tu dis, dans ce web documentaire, on a donc deux jeunes qui sont à l'intérieur, mais Oussama qui fait le lien constamment entre l'extérieur et l'intérieur. Donc toute l'idée pour moi était de rendre compte de ce travail-là et de témoigner.
Karine ?
Oui, c'est à ce moment-là que moi je suis rentrée dans le projet, puisque avec Caroline on se connaissait depuis longtemps. Moi, je suis pas du tout une spécialiste de la Syrie, donc je suis intervenue en tant que réalisatrice de films documentaires. je pense que c'est pas mal justement qu'il y ait à la fois donc ce duo, une spécialiste et une novice qui ne sait pas et qui donc peut en parler d'une façon peut-être un peu différente, moins en qualité de spécialiste. Donc à ce moment-là, toutes les deux, on a réfléchi en se disant comment est-ce qu'on va mettre en place quelque chose qui décale un peu le regard par rapport à tout ce qu'on pouvait voir justement, hein, puisqu'il y avait cet afflux d'images. Tout le monde filme maintenant, hein, c'est tout le monde a un téléphone portable, une caméra, etc. Donc on peut pas dire qu'on leur a confié des caméras, ils en avaient. En revanche, il a fallu décider avec eux comment ils allaient s'en servir pour nous. C'est-à-dire que voilà.
Parce déjà, que l'idée, en fait, donc de Syrie viennent encore, mais sont venus surtout au début de la révolution des heures et des heures et des heures d'images, souvent diffusées en direct sur des chaînes qui permettent de diffuser en direct, qui filmaient la guerre en direct ou des manifestations et la répression comme si on y était. Et vous, ce qui vous a intéressé, c'est peut-être de montrer les coulisses de ce travail de ceux qu'on a appelés les citoyens journalistes. Les journalistes citoyens, ou les journalistes engagés, ou les journalistes militants, je ne sais plus quel terme il faut employer, c'était de montrer les coulisses et de dire à ces personnes, eh bien nous, ce qui nous intéresserait, c'est que vous nous racontiez votre vie derrière la caméra. C'est ça,
Caroline ? Oui, plus que les coulisses de ces journalistes citoyens, mais c'est leur vie, leur quotidien dans cette révolution qui est devenue une guerre. Et on a eu toute cette réflexion personnelle aussi avec Oussama, donc que je connaissais bien, je suis devenue amie avec lui. Et donc on a eu cette réflexion commune et c'est lui qui a proposé et pourquoi pas demander à des jeunes de l'intérieur. Pour nous, c'était une idée à laquelle on avait pensé, mais on ne pensait pas que ça allait pouvoir être réalisable. Et donc, on a pris contact, enfin, c'est Oussama qui a pris contact avec ce jeune de Daraya à Damas, qui connaissait parce qu'ils appartiennent au même mouvement,
Amer,
et avec Majed, qui est devenu correspondant pour un réseau médiatique, Cham News. Donc lui, c'est vraiment le journaliste citoyen. Et donc, on leur a proposé et on les a impliqués dans ce projet parce que c'est une dimension importante sur laquelle il faut revenir. C'est un projet collectif. Donc, on leur a proposé, nous voulons témoigner de votre engagement, pas forcément de votre travail de journaliste citoyen. Ça suppose un engagement de votre part et nous allons vous demander de filmer votre quotidien et surtout votre ressenti, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Karine qui apporte justement cette
dimension-là. Et toi, Karine, tu leur as donné des conseils sur comment placer la caméra, à quel moment commencer à tourner, des choses comme ça?
Oui, bien sûr. Il y a toute cette question qui est un peu technique, hein. Bon, c'est pas le plus important pour moi. C'est-à-dire que, comme tu as dit tout à l'heure, il y a cette idée de filmer les coulisses, le hors-champ de la révolution, c'est-à-dire ce qu'on voit pas forcément dans les médias. Mais il y a aussi cette idée de retourner la caméra sur soi et de mettre des mots sur ces images. C'est-à-dire que bien souvent ces images-là, elles sont livrées un peu brutes.
Les images de la guerre,
des manifestations, etc., des manifs. Voilà, on a un peu du mal à les regarder.
On a du mal parfois même à les comprendre, voilà. Même si dans leurs commentaires, ils s'arrangent toujours ceux qui filment pour donner toutes sortes d'informations sur le jour, la date, le lieu exact, etc. Mais c'est vrai que c'est très brut,
assez factuel,
très impersonnel aussi.
Nous, ce qu'on leur a dit, c'est voilà, retournez la caméra sur vous et mettez des mots là-dessus. Dites-nous ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous.
Et ça donne donc trois journaux intimes qu'on peut découvrir soit en parcourant chaque personnage. Ça commence à l'hiver 2012, donc c'est
le moment où ils ont commencé à filmer, voilà. novembre 2012,
donc c'est déjà assez ancien. Ou aussi on peut aussi découvrir ces films finalement sous forme de saisons. Il y a déjà eu 4 saisons révolues qui suivent pratiquement les saisons de l'année, mais pas vraiment. Ça commence donc à l'hiver de 2012, et donc dans le découpage par saison, eh bien on va avoir la chronologie de ces trois vies qui sont pas véritablement parallèles, et on a aussi une certaine forme de chronologie de la guerre et puis de peut-être du désespoir qui s'installe de plus en plus fort au fur et à mesure que ce conflit qu'on espérait court, comme l'ont été certes d'autres révolutions arabes, eh bien s'enlise et devient de plus en plus violent.
Oui, ils sont racontés de manière individuelle, donc chacun a un journal, a son journal sur la timeline, mais on a aussi voulu croiser un peu leur trajectoire, et on est arrivé effectivement à cette lecture chronologique qui permet de voir Hammer et Tadaraya. Que se passe-t-il à Daraya, des bombardements là au baril explosif, et on va voir aussi que Alep, c'est un peu la même chose, et c'est aussi, ça permet de constituer un récit collectif, et il y a tout cet avantage, je crois, de travailler sur la durée, parce que on arrive à restituer malgré tout toute cette évolution, tout ce qui se passe en Syrie.
Et on voit aussi les visages de ces jeunes hommes, particulièrement les deux qui sont tout le temps en Syrie, c'est-à-dire Hamel et Majed. On voit leurs visages au début du film, au début de leurs journaux intimes, qui sont dynamiques, jeunes, souriants. Voilà, souriants, qui ont l'air heureux, etc. Et on les voit dépérir, vieillir au fur et à mesure des mois, maigrir, devenir fatigués, perdre cette lueur. Ça a dû être assez difficile. Difficile aussi pour vous de réceptionner ces vidéos. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Ils vous les ont envoyées au fur et à mesure?
Ils nous les envoient au fur et à mesure, et c'est vrai qu'on a pu découvrir, comme aujourd'hui, celui qui va se rendre sur le site, on a découvert, par exemple, Hammer, c'était en avril dernier, ça faisait quelques semaines qu'il n'avait pas filmé, et on a vu sa transformation physique, sa fatigue, c'est assez terrifiant. C'est vrai qu'on reçoit ces vidéos au fur et à mesure, quand ils peuvent les envoyer, sur Skype, sur ce lieu commun qu'on a mis en place.
Karine ?
Oui, moi je crois que ce travail sur la durée, on se rendait pas compte au début à quel point ça allait être pertinent de travailler sur la durée, puisque comme tu as dit tout à l'heure, on savait pas que ça allait durer comme ça. Et donc là... malheureusement, on voit effectivement, quand on avec maintenant plus d'un an derrière nous, on voit à quel point ils s'enlisent, à quel point l'euphorie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas l'élan du début est cassé en permanence, et comment ils doivent trouver des ressources en eux pour rebondir, pour continuer, etc. Et ils y arrivent, ce qui est absolument fascinant à voir, parce que ce qu'ils vivent, c'est au-delà de tout ce qu'on raconte, quoi. Enfin, je crois qu'il faut vraiment aller regarder pour bien comprendre ça, ce qu'ils sont en train de vivre. Effectivement, nous, je pense que dans X années, quand on regardera ce travail qu'on a fait, qui est un travail un peu de fourmi sur la durée, une vidéo par-ci, une vidéo par-là, ça finit par faire quelque chose d'assez impressionnant, je crois.
Un document, oui.
Il y a toutes sortes de scènes extrêmement impressionnantes dans le film ou dans le web documentaire, des scènes de guerre, des scènes de combat, il y a énormément de scènes extrêmement intimes. On va écouter un extrait que je vais me permettre de traduire au moment où on l'écoute. Ça se passe à l'été 2013, c'est Majed. La vidéo s'appelle « La mort, encore la mort », donc ça fait 2 ans que dure le conflit en Syrie. Et c'est un moment assez déprimant, en fait. D'ailleurs, Majed est passé par une véritable déprime, on le sent. Et donc, il raconte, il explique avec ses mots cette déprime.
الثورة بسوريا صار لها سنتين تقريبا طبعا في شغلتين نسيناهم مع هاي الثورة
La révolution en Syrie dure depuis 2 ans. Il y a 2 choses que nous avons oubliées durant cette révolution. Le sourire et la joie qui nous accompagnaient tous les jours. De quoi pouvons-nous nous réjouir? Où que tu regardes, tu vois le mort. Tu te souviens du mort. Tu sens le mort. Quand je sors de chez moi, de ma maison, à l'autre bout du village, où que je regarde, mon cœur saigne. Je regarde vers chez mon voisin, il est mort. L'épicier, il est mort. Le coiffeur, il est mort. Je vois un enfant, je me souviens que son père est mort. Je vois un jeune homme, je me souviens que son frère est mort. Il n'y a plus personne. La plupart des gens sont morts, tous nous attendons la mort, je vais mourir comme sont morts mes amis.
RFI.
Oui, c'est Majed, donc on reçoit cette vidéo à l'été. Il faut savoir que ça fait plus d'un an et demi que Majed est embarqué, accompagne une brigade de l'armée libre, la brigade de son village dans la région d'Alep. Donc il y a eu cette euphorie où il a couvert la bataille d'Alep, et à ce moment-là, à l'été, il revient dans son village et il fait une pause, et là c'est le coup d'après, enfin un moment de déprime, et effectivement il commence à compter les morts. Et on a parlé ensemble de ce moment-là, parce qu'on a un dialogue, et c'est un dialogue qui est très très important
en coulisses,
en coulisses, dans notre fameux Skype, par Skype, ou même maintenant par Facebook, dans un groupe privé qu'on a mis en place. Et il nous raconte ce moment de déprime, il n'y arrive plus, et donc à ce moment-là on va l'encourager, est-ce que si tu veux tu peux en parler. Et ce qui est extraordinaire avec Majed, c'est que cette caméra-là est devenue son... Il écrit son journal intime. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'on parlait... D'accord, c'est très déprimant, on les voit affronter une situation toujours de plus en plus difficile. Et en même temps, ces moments d'abattement, qui sont complètement normales, ils repartent au combat. Et ça, je trouve que c'est une résilience, et c'est cet engagement-là qu'on a voulu montrer.
Karine?
Oui, moi je repense aussi à cette vidéo-là, et bon, il y a cette ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on reçoit nous les vidéos et qu'on les découvre, bien souvent on se les prend vraiment en pleine figure, et même on est bouleversé, hein, ça c'est clair. Et je pense que bah, les gens qui les découvrent, cette première impression-là, on sait qu'ils l'auront eux aussi. Là, moi, ce qui m'avait bouleversée, c'est aussi qu'on a le sentiment qu'il prend conscience à un moment que sans doute il ne sortira pas de cette révolution, quoi. Qu'il en sortira pas vivant. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui, moi, me glace.
Et ce qui est frappant aussi, c'est qu'il parle avec une poésie qu'on sent même dans la version française, mais il parle avec une poésie très forte. Alors je me suis permis de traduire le mot shahed, qui est martyr, qu'on utilise pour définir les morts de notre camp, par le mot mort, parce que c'est comme ça qu'on dirait nous, on dirait pas toujours le mot martyr, oui, qui a une connotation différente, qui n'a pas le même sens. Et en même temps, vous recevez ces vidéos, mais j'imagine que quand vous recevez des vidéos, vous êtes aussi soulagé parce que c'est un signe de vie, parce qu'il court des dangers extrêmes qu'ils nous racontent d'ailleurs au fur et à mesure. On les voit pas sombrer dans la guerre, mais plonger dans la guerre. Au début, ce sont plutôt des journalistes, etc. Et en fait, ça devient au fur et à mesure des films, je pense encore une fois à Majed, des combattants, littéralement. Certaines des vidéos, on le voit entouré de ses frères d'armes. Ils sont exténués. Et ça devient des vraies scènes de guerre, quoi.
Oui, mais Hammer aussi, qui est à Daraya, dans une banlieue qui est complètement assiégée et qui a aussi perdu pas mal d'amis et des proches. Oui, il faut rappeler que ils sont constamment en danger de mort. Ils risquent leur vie à tout moment. Et donc, nous, on vit aussi cela à distance. On va avoir des moments de silence, 3 jours de silence. Mais Oussama va essayer de nous donner des nouvelles puisqu'il est en lien. Majed le fait souvent. C'est-à-dire que dès qu'il rentre du combat, il fait un petit signe. Coucou, je suis là, tout va bien.
On va terminer sur des informations pratiques. Donc, on peut découvrir ce web documentaire, ces journaux intimes sur les sites d'Arte et de Mediapart. J'ai oublié de citer Mediapart au début. C'est une histoire en cours. Il y a une saison qui est en cours où vous êtes en train de livrer et de montrer des vidéos au fur et à mesure, c'est ça?
Oui, on continue l'aventure commencée en novembre 2012, toute cette année. Donc tout 2014, et donc au fur et à mesure qu'il nous envoie des vidéos, on va poste régulièrement. C'est difficile de donner un rendez-vous étant donné les contraintes, mais on essaye de tenir un peu tous les 15 jours.
Est-ce que d'autres personnes, d'autres journalistes citoyens, d'autres militants, d'autres personnes vont rejoindre l'aventure? Est-ce que vous allez avoir d'autres témoignages?
Oui, on est en contact, on essaye d'avoir aussi une voix de femme.
Je peux dire là-dessus que c'est pratiquement acquis qu'une femme, donc, qui se trouve être la sœur d'Oussama, qui a vécu donc l'emprisonnement à Damas, elle en est sortie, et donc on lui a demandé le même dispositif, hein, d'autofilmage, de nous raconter ce qu'elle a vécu, et de le raconter avec beaucoup de détails. Voilà, donc ça va être le début de la présence de cette femme dans ce projet.
Syrie, journaux intimes de la révolution, c'est donc à retrouver, je l'ai dit, sur les sites d'Arte et de Mediapart. On trouvera bien entendu un lien, des informations complémentaires sur le site de l'Atelier des médias. Bravo mesdames pour ce très beau travail qui est presque irréel en fait dans sa violence et dans sa crudité à certains moments, mais qui est extrêmement fort. Et bravo aussi peut-être surtout à ceux qui se sont livrés à ces journaux intimes et qui veulent absolument raconter leur histoire, l'histoire de leur révolution, c'est-à-dire Oussama, Majed et Amel. À bientôt.
Merci. Au revoir. Merci.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va ?
Très bien, et toi ?
Très bien, merci. Il y a quelques semaines, Francis, tu nous as annoncé que tu repartais faire un tour du monde, un tour du monde de l'innovation dans les villes. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as découvert jusqu'à maintenant ? Je crois qu'une de tes premières étapes, c'était la Corée.
Effectivement, ma première étape hors des États-Unis par lequel je suis passé, c'était Séoul et Songdo, qui est la ville nouvelle créée à partir de rien au sud de la capitale. Les deux, alors Songdo, c'est une ville créée sur de la terre récupérée, enfin des terrains gagnés sur la mer. Il n'y avait rien au départ. Le programme est lancé par une entreprise américaine qui s'appelle Gale International. Ils font très attention à ce que les commerces, les lieux de travail et les lieux d'habitation soient pas loin les uns des autres. Donc c'est un plan qui a l'air bien conçu, mais ils ont du mal à attirer du monde. Et alors que la ville doit faire dans 2 ans, 3 ans, 75 000 habitants, elle n'en a encore que 25 000. La grosse caractéristique, c'est qu'il y a un centre d'opération, il devrait y avoir un centre d'opération qui permettra de voir tout ce qui se fait, tout ce qui se passe dans la ville. Donc c'est un projet qui est un peu préoccupant parce qu'il a du mal à avancer, qui est un peu préoccupant parce que il a une tendance à centraliser. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer avec ce qui se passe pas loin de là, c'est-à-dire à Séoul, une ville qui existe depuis très longtemps et qui a beaucoup, 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 beaucoup plus d'habitants.
On va pas dévoiler dès maintenant tout ce que tu vas raconter à la fin de ton voyage, mais est-ce que tu peux nous donner une idée justement de la comparaison entre Songdo et Séoul ?
Ce qui est très intéressant, j'ai trouvé, c'est que, en fait, les gens de Séoul disent que mettre des capteurs partout, comme essaye ou comme prétend le faire Songdo, ça coûte beaucoup trop cher et qu'ils ont tendance à se servir des GPS des taxis et des téléphones mobiles des citoyens. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui devient le capteur et ça coûte moins cher. J'ajoute qu'il y a une réflexion sur laquelle nous reviendrons, bien entendu, c'est que l'installation des infrastructures et des outils qui permettent de dire qu'on a une ville intelligente coûte très cher, non seulement en termes d'installation, mais en termes de maintien, et qu'on parle jamais, du coup, du maintien qui doit être pris en charge, soit par les impôts, soit par la publicité, soit par les utilisateurs. Et la vérité, c'est que tout le monde ne se précipite pas pour payer ce qui doit être payé.
C'est vrai que si les impôts locaux sont importants, ça manque d'attractivité pour les habitants et même pour les entreprises. Tu es passé par la suite à Singapour, c'est ça ?
Je suis passé par Singapour, qui est donc une ville, qui est la ville, il y a des gens qui disent la plus riche du monde, je ne sais pas, qui est une ville extrêmement câblée, qui est une ville où, dans lequel l'année prochaine, il y aura 100% de la population qui aura des smartphones, donc quelque chose de considérable. Mais ce qui m'a passionné à Singapour, c'est le rôle des geeks dans le développement de la ville intelligente. En gros, une entreprise locale qui s'appelle Newton Circus a organisé des hackathons, c'est-à-dire des réunions de hackers, dans lesquelles ils se consacrent à essayer de trouver des applications pour les villes. Alors le problème, c'est qu'au départ, il n'y avait pas de données ouvertes. Ils ont, en faisant la cour aux autorités locales et aux entreprises privées, fini par obtenir des données, et les applications se sont multipliées. Et donc, ils ont créé une sorte de dynamique qui est fabuleuse, parce que les autorités et les entreprises ouvrent de plus en plus leurs données, et du coup, les hackers ont de plus en plus d'applications à proposer. Deux exemples, il y en a un qui est le calcul prévisionnel des places de parking. En gros, quand tu pars de chez toi et qu'on te dit il y a une place de parking dans tel endroit, ça ne sert à rien, parce que quand tu arriveras, elle n'y sera plus. Mais on peut te dire quel est le pourcentage de chance pour que dans tel parking, il y ait de la place en fonction des données existantes. Ça, c'est un cas. Et l'autre, c'est du crowd sourcing de la température des immeubles. Donc, il y a des grands gratte-ciel À Singapour, où il fait, en ce moment, il fait pas très chaud, 32, 33 degrés au milieu de la journée, et donc l'air conditionné est quelque chose de vital. Eh bien, une application a été développée qui permet aux gens qui travaillent dans l'immeuble de dire il fait trop chaud dans tel endroit, trop froid, etc., et donc de trouver des températures agréables pour tous ou pour la majorité en tout cas.
Et on parle de crowdsourcing parce que c'est le crowd, la foule, les gens qui informent cette application. Merci Francis, je te souhaite une bonne continuation dans ce voyage. Où est-ce que tu vas aller par la suite?
Ma prochaine étape sera Masdar, qui est une ville nouvelle à Abu Dhabi, dans une étape encore antérieure en termes de développement à celle de Songdo. Mais c'est les deux villes complètement nouvelles qui se veulent totalement intelligentes dont on parle le plus, donc je raconterai ce que j'y vois.
Et on peut bien entendu te suivre sur ton site internet francispisani.net, on peut te lire sur les sites de La Tribune et de L'Opinion, on peut enfin retrouver tes chroniques sur ton blog de l'Atelier des médias. À la semaine prochaine Francis.
À la semaine prochaine Ziad.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 327 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur atelier.rfi.fr, sur mondoblog.org et sur libiablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Bah, ça continue sur Internet.